Place Info.
Bonjour Tariq Krim.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur dans le numérique depuis 20 ans. Vous avez créé plusieurs startups, NetVibes, Joli Cloud. Vous avez été vice-président du Conseil du numérique. L'étau se resserre aujourd'hui autour des géants du numérique, des géants américains. La justice américaine vient d'ouvrir une enquête antitrust contre Google et Facebook. Et de plus en plus de voix s'élèvent contre la suprématie des GAFA. Est-ce qu'il faut se méfier des GAFA ?
Je pense que les GAFA ont énormément de pouvoir, mais surtout on a laissé pendant 10-15 ans se construire un monde dans lequel on n'est pas très à l'aise, sans véritable contre-pouvoir, sans capacité de dire « ah, là on va trop loin ». Et donc effectivement aujourd'hui on se rend compte qu'on a laissé 4-5 sociétés, on leur a donné le pouvoir de contrôler nos émotions, nos vies. Et même le débat politique, comme on l'a vu aux États-Unis avec le Brexit.
Mais ce sont les GAFA qui ont changé nos vies, qui ont inventé tous ces services, qui ont fait baisser les prix des services et des produits technologiques. Alors des services qui ont plein de défauts, mais qui ont aussi d'innombrables avantages. Comment on peut faire ?
Ben, quand on regarde l'histoire de l'Internet, la première révolution, c'est le web. C'était quelque chose d'ouvert, d'accessible à tous. C'était très généreux. C'était l'idée de construire un monde où on allait pouvoir communiquer avec les autres. Et il y a eu une deuxième révolution qui, elle, est une révolution, ce que j'appelle l'Internet boîte noire, qui est née avec l'iPhone, avec Android, avec les téléphones mobiles, qui sont des plateformes fermées pour lesquelles on n'a pas véritablement de possibilité de faire ce que l'on veut. On doit respecter les règles. Et c'est ce monde, en fait, qui s'est construit, qui a grandi depuis 10 ans et qui nous a enfermés dans une prison de verre.
Alors, Tariq Krim, aujourd'hui, vous défendez ce que vous appelez le slow web, un web lent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça paraît presque antinomique.
Ben, en fait, l'idée du slow web, ça vient de l'analogie avec le slow food. Hein. D'une certaine manière, ces grandes plateformes sont devenues les junk food, les McDonald's de la pensée. On utilise tous les mêmes applications. On est tous en retard, occupés par les mêmes systèmes. On a des notifications en permanence et on a créé un monde où tout le monde pense la même chose au même moment. Et donc, d'une certaine manière, j'avais envie de réfléchir à autre chose, une vision un peu plus slow, où il y a de l'éthique, mais surtout aussi de la bonne manière, dans la façon dont les logiciels s'adressent à nous.
Concrètement, ça voudrait dire quoi ?
C'est-à-dire que l'idée du slow web, c'est qu'on s'appuie sur 4 choses. La première, c'est la transparence. Les logiciels qu'on utilise, aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Quand on like une photo sur Facebook, son profil a changé. Il y a des millions de gens qui ont été contactés par le Parti républicain parce qu'ils avaient liké les soupes Campbell. On ne sait pas que quand on a une action, elle a des conséquences politiques, économiques, socio-économiques. Il y a l'idée de la manipulation aussi. Aujourd'hui, ces plateformes nous manipulent. On est tout le temps en retard, on est tout le temps... Dès qu'on prend son téléphone, on pensait rester 20 secondes et on a passé 10 minutes. Enfin, on n'a plus de vie privée, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait est espionné en permanence. Et puis l'autre chose qui est devenue impossible, c'est de partir. Quand on veut partir d'un service, c'est très difficile. Quand on essaye de quitter Facebook...
Il n'y a pas d'alternative. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Quels sont les outils aussi évolués ? Est-ce qu'on pourrait, notamment nous en Europe, créer des outils équivalents ? Ça paraît aujourd'hui impossible, irréaliste.
Alors,
Ils ont pris tellement d'avance.
La question, c'est une question de taille. Est-ce qu'on peut créer des géants qui ont 2 milliards d'utilisateurs ? Probablement non, mais on pourrait construire des outils peut-être plus simples, à taille plus humaine. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui.
Alors, c'est ce que vous avez fait avec une plateforme qui s'appelle Dissident ?
Oui, en fait,
un programme.
J'en avais marre, en fait, d'avoir à choisir entre Apple et Google, entre Dropbox, entre tous ces services. J'avais envie d'une plateforme neutre, totalement neutre, agnostique.
Enfin, vous êtes arrivé dans le studio avec un ordinateur Google et un ordinateur Apple.
Et j'utilise une plateforme qui marche sur les deux. Donc, cette idée que je vais reprendre le contrôle de ma vie et d'abord reprendre le contrôle de mes données et en faire ce que je veux. Il y a 10 ans, avant l'iPhone, c'est ce qu'on faisait avec nos ordinateurs. On n'avait pas besoin de se dire, est-ce que c'est compatible avec ce téléphone? Est-ce que je vais pouvoir sortir mes images de mon téléphone? Est-ce que je peux appeler telle personne depuis WhatsApp vers Facebook?
Oui, mais on faisait aussi beaucoup moins de choses. Il y avait beaucoup moins de gens qui pouvaient utiliser ces outils, qui sont devenus également très très simples.
C'est devenu très simple, peut-être parfois trop simple. Et puis, une des questions, c'est est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de plus de technologies ? Moi, ça fait 2 ans maintenant que je n'achète plus le nouveau téléphone Apple, alors que j'étais un fan de la marque. Je me rends compte aujourd'hui que finalement, avoir un email simple, un endroit où j'ai mes photos, un endroit où je peux écrire des documents, partager certaines choses avec mes amis, ça me suffit. On n'a pas besoin, en fait, de tout toutes ces choses qui ont l'air d'être très utiles, mais qui sont en fait au final inutiles.
Donc c'est ça le slow web, Tariq Krim.
Le slow web, c'est revenir à des fondamentaux et se dire que la technologie doit être en symbiose avec notre vie et pas en contrôler notre vie, ce qui malheureusement est devenu le cas avec nos téléphones et les applications qu'on utilise tous les jours.
Alors je le disais, vous êtes malgré tout tombé dans le numérique tout petit et vous êtes un nom important dans l'histoire du numérique en France. Vous avez créé plusieurs entreprises. Vous étiez très emballé à une époque. On s'est même connu il y a très longtemps. Vous aviez une vision très positive. Est-ce que vous êtes un déçu du numérique?
Un peu. Je crois que on a été trop vite. C'est un des problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a oublié que le monde entier ne va pas à la même vitesse que la lumière, parce qu'aujourd'hui, l'Internet circule via les fibres optiques à la vitesse de la lumière, et que désormais, notre rôle, hein, surtout les pionniers, ça va être de réparer ce que l'on a cassé, c'est de construire des choses qui prennent en compte la complexité du monde et qui n'essayent pas de simplifier à outrance le monde. Malheureusement, on le voit, Uber, c'est génial, sauf que maintenant, dans toutes les villes où il y a Uber, il y a des embouteillages artificiels qui ont été créés par les machines. Airbnb, c'est super, mais quand Airbnb s'installe dans des villes comme Paris, les familles ne peuvent plus louer parce qu'on préfère louer son appart 4 week-ends par mois plutôt que de le donner de le louer à une famille. Donc, en fait, on a créé de nouveaux problèmes et effectivement, il faut prendre conscience que ces solutions n'étaient pas parfaites et en tout cas avoir l'humilité de se dire qu'on s'est trompé et qu'il va falloir corriger cette...
Alors comment on fait, Tariq Krim? Concrètement, comment on fait? On développe des alternatives, on tape sur les doigts des GAFA, on leur demande de se démanteler, est-ce que ça réglerait le problème?
En fait, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que pour la première fois, nous avons des logiciels qui vivent dans nos intimités, lisent nos messages personnels, consultent nos photos, analysent nos relations personnelles avec telle ou telle personne. Et on a laissé, en fait, ces applications s'installer sans aucune règle. Le régulateur, l'État, ne peut pas rentrer...
Est-ce que c'est pas normal dans la mesure où un nouveau continent comme ça s'est ouvert? Enfin, au moment de l'invention de la voiture ou du moteur à explosion ou du train, il s'est passé des choses incroyables. Et puis ensuite, la régulation est intervenue.
La voiture, c'est un espace public, donc on peut dire voilà, on va mettre des feux rouges, on va décider que il y a un code de la route. Mais quand on entre dans l'intimité des gens, c'est un espace où l'État n'a pas son mot à dire. Personne ne doit vous dire comment écrire à tel ou tel ami, comment organiser vos photos. Et pourtant, ces logiciels analysent tout ce que l'on fait dans notre vie intime pour ensuite revendre ce savoir-faire et pas nos données privées. C'est très important aux acteurs publicitaires. Donc, ça a créé une distorsion à laquelle on n'est pas aujourd'hui, pour laquelle on n'est pas capable de trouver une solution. Alors, on pourra réglementer. Je pense qu'il y a aussi un autre problème, c'est qu'on est dans un monde où il n'y a plus de concurrence. On ne peut plus inventer. Plus aucun fabricant peut faire un nouveau système de téléphone. Plus aucun acteur ne peut faire une plateforme nouvelle. Ces acteurs ont complètement verrouillé le marché et le rôle. Et c'est pour ça qu'on le voit aux États-Unis et un peu moins en Europe, mais j'espère un peu plus dans les mois qui viennent. Il faut redonner aussi au marché la possibilité d'innover. Aujourd'hui, on est dans une phase où il n'y a plus d'innovation. L'innovation a été étouffée par ces acteurs qui veulent tout faire. Ils veulent faire de la médecine, ils veulent faire de la voiture, ils veulent faire de la santé, ils veulent faire de la politique, ils veulent toucher à tout.
Parce que tout passe par le numérique.
Parce que tout passe par eux. Et à un moment donné, on a décidé, pour une raison que je ne comprends pas, que Google, Apple, Facebook, qui sont des sociétés qui sont très bonnes sur leur marché d'origine, avaient une compétence. Parce que c'est pas parce qu'il y a 50 personnes qui font de l'IA chez Facebook qu'ils doivent gérer ou organiser la manière dont on va consommer telle ou telle chose ou se guérir ou donc il y a un vrai aussi problème de on a laissé assez un espace incroyable à ces sociétés qui ne sont pas forcément compétentes sur ces domaines.
En début d'année, Tariq Krim, vous aviez signé une tribune dans Le Point qui avait fait pas mal réagir. Vous disiez la France s'est vendue aux GAFA. Ça voulait dire quoi?
Ça veut dire qu'à un moment donné, malheureusement, on a aujourd'hui, deux mondes qui s'offrent à nous. Il y a ce que j'appelle les suprémacistes numériques de la Silicon Valley. C'est des gens qui pensent que le monde, en fait, est une équation mathématique et qu'on va résoudre tout par les statistiques, par le big data, enfin, toutes ces choses-là. Et de l'autre côté, il y a le modèle chinois où, en fait, tout le monde est maintenu au pas grâce à des caméras en permanence. On est surveillé. Si on traverse un feu rouge, et alors qu'on n'a pas le droit, on a sa photo qui apparaît pour nous humilier. Enfin, il y a un modèle qui est un modèle totalement totalitaire. Et entre ces deux modèles, aucun d'entre eux ne nous convient. Et il faut l'émergence d'une troisième voie, un modèle plutôt européen. Et c'est ce que la France aurait dû faire depuis des années. Il n'est pas normal que l'argent public, que l'État mette en avant des plateformes qui n'ont pas forcément l'intérêt général en premier plan.
Alors l'État quand même ne laisse pas totalement tout faire, notamment en Europe et notamment la France qui a souvent tapé du poing sur la table, notamment en ce qui concerne les dérapages de Facebook ou de Google. Il y a des tentatives de régulation.
Oui, mais en même temps, et malheureusement, je crois qu'il y a une partie de la classe politique qui pense que c'est trop tard. Moi, je m'insurge contre cette idée. On s'est dit, c'est simple, c'est l'avenir, c'est branché, on reçoit les patrons de ces startups comme des chefs d'État, ce que j'appelle la stratégie Ferrero Roche d'Or, on invite tout le monde, on fait, c'est super beau, tout le monde est gentil, alors qu'on sait très bien que c'est pas du tout le cas. Et on n'a pas de véritable politique. La première des choses qu'on devrait se poser, c'est dans quel monde veut-on vivre, d'abord. Et ensuite, on doit organiser, notamment les plateformes, mais également les alternatives, pour qu'elles s'organisent autour de cette vision du monde. Tant qu'on n'a pas une vision claire de là où on veut aller et de la manière dont on veut vivre, eh bien, on va vivre dans un modèle qui est inspiré de la Silicon Valley, un modèle qui bat un peu de l'aile parce qu'on se rend compte que tout n'est pas très beau. Moi, j'ai habité à
l'époque. Oui, vous avez vécu longtemps dans la Silicon Valley.
Là-bas, à l'époque où c'était fantastique. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Il y a beaucoup de gens qui partent de San Francisco dépités, qui se rendent compte en fait que le système ne fonctionne pas. Qu'il a fonctionné. On voit Uber a été mis en bourse et n'a jamais réussi à baisser, n'arrive pas à démontrer que sur le long terme, c'est une société qui va gagner de l'argent.
Ces grands groupes ont encore une énorme attractivité auprès des jeunes talents, des jeunes ingénieurs, des jeunes développeurs qui sont nombreux à rêver de travailler dans ces entreprises parce que c'est là qu'il y a les plus gros salaires, les meilleures conditions de travail bien souvent, où il y a un concentré d'intelligence et de savoir-faire aussi qui est très attirant. Comment lutter contre ça?
Je pense que c'est plus vrai. Il y a déjà à Stanford, l'endroit où on a tous les 10 PhD en PhD pardon, docteurs en sur les tout ce qui est moteur de recherche qui sont toujours embauchés par Facebook, Google avant même de finir leurs études, ces gens-là maintenant veulent aller ailleurs et on voit de plus en plus de gens qui se disent je ne veux pas participer à un système qui a favoriser le Brexit, l'élection de Donald Trump, qui est en train d'appauvrir le monde. En fait, on a une nouvelle classe.
Qui passe des contrats avec l'armée pour bâtir des armes automatiques.
Absolument, parce qu'on l'oublie, mais l'IA va être essentiellement un outil militaire. Et là, je suis d'accord avec l'un des membres du board de Facebook, Peter Thiel, le créateur de Palantir, qui dit l'IA est avant tout une technologie militaire. Et c'est vrai qu'il y a toute une génération de génies qui sont partis aux États-Unis et finalement leur travail a servi à quoi? À vendre des Toyota sur Facebook. Et aujourd'hui, ces gens se posent la question, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser l'élite d'une génération à faire autre chose? Dans les années 60, on a envoyé des hommes sur la Lune. Il y a d'autres choses à faire, notamment dans la médecine, dans la recherche, changement climatique. Il ne faut pas oublier que c'est aussi l'urgence. Et donc, à un moment donné, je pense que le rêve ne correspond plus à la réalité et beaucoup de gens se posent des questions et sont en train de partir. Il y a beaucoup de gens qui partent en ce moment de Google, de Facebook, parce qu'ils ne sont pas contents de la vision long terme.
Merci Tariq Krim, entrepreneur et spécialiste du numérique.
Merci beaucoup.